Les conférences du Collège de France.
Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à la quatrième et dernière conférence de mon cours sur les débuts de la philosophie juive de l'Antiquité, qui portera sur l'idée d'un déterminisme géographique et la diaspora juive. Pour conclure notre cours, nous ferons appel à deux termes difficiles, le déterminisme géographique et la diaspora. Il ne s'agit pas de termes innocents. Par le déterminisme géographique, nous entendons le point de vue, et je cite, qui accorde une place prépondérante au milieu naturel dans l'analyse et l'explication des sociétés, pour citer les géographes Vincent Berdoulet et Olivier Souberon. Cette approche est très controversée dans la géographie moderne, notamment en France, mais la compréhension gréco-romaine d'un déterminisme géographique est encore plus problématique. Dans l'Antiquité gréco-romaine, on entend par là l'idée que le milieu géographique influence le caractère de ses habitants. Le caractère, mais aussi le corps physique d'un peuple, peuvent ainsi être expliqués par la nature de la région environnante. La théorie selon laquelle le lieu crée le corps physique, ainsi que le caractère de l'homme ou d'un peuple entier, a survécu de manière remarquablement persistante pendant de nombreux siècles. Pour le moins dans son application gréco-romaine, le déterminisme géographique est une approche réductrice qui néglige d'autres aspects sociaux ou culturels. L'approche opposée, selon laquelle l'homme crée le lieu et non le lieu l'homme, a été formulée plus récemment par les géographes humanistes et expliquée théoriquement par des chercheurs tels que Jonathan Smith. Pour ce qui est de la diaspora, le mot diaspora, du grec « he diaspora », la dispersion, n'est pas un terme anodin. Il implique un événement abrupt et indésirable et renvoie à une dichotomie nette entre un centre et une périphérie. Rappelons que nous avons constaté à plusieurs reprises lors de ce cours que les dichotomies simplistes ne sont point utiles pour comprendre le judaïsme hellénistique. La première dichotomie que nous avons remise en question est celle de l'hellénisme et du judaïsme, puis aussi celle de la philosophie et de la loi. Diaspora implique un faux lieu, ou du moins un lieu qui est en tension avec un lieu originel, un lieu perdu. Comme le dit John Barclay, les communautés de la diaspora ne sont, par définition, pas là pour rester. Elle conserve un sentiment d'appartenance à un autre pays. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que les auteurs juifs hellénistiques, comme Philon d'Alexandrie, auraient compris en vivant en dehors de la terre d'Israël. Comme nous le verrons et comme nous l'avons déjà vu dans une certaine mesure, pensez à la réticence de Philon à parler de l'Exode comme d'une migration vers la terre d'Israël, vue lors de notre première conférence, Philon ne considérait pas Alexandrie comme un lieu temporaire. La diaspora est donc toujours un terme de jugement et non un terme neutre. Dans le cas du judaïsme, dans le cas de la diaspora juive, le phénomène est en outre fortement marqué par la théologie juive et chrétienne. Le terme est utilisé pour la première fois dans la Septante, dans un langage théologiquement chargé pour dénoncer le châtiment divin. Vous voyez les passages. « Le Seigneur te dispersera », voilà le mot « diasperei », parmi toutes les nations, depuis une extrémité de la terre jusqu'à l'autre extrémité, ou, si ta dispersion, « he diasporasu », est depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre extrémité du ciel, depuis là-bas, le Seigneur ton Dieu te rassemblera. Dans les contextes rabbiniques et chrétiens, la diaspora, ou la galoute, la gola, représente explicitement la dispersion des Juifs à la suite d'une punition divine pour les péchés d'Israël. Pourtant, la diaspora est un terme utile et nous l'utiliserons faute de mieux. Malgré toutes les réserves, il est entré dans l'usage depuis longtemps pour désigner une communauté dispersée dans différents endroits et ayant une patrie traditionnelle. Une caractéristique de la diaspora est justement, comme le constate à nouveau John Barclay, sa formation d'identité à la fois locale et translocale. La diaspora transcende la géographie. Nous le verrons pour l'ancienne diaspora juive, tant dans les sources païennes non juives que dans les textes juifs, même si c'est de manière plutôt différente. Nous aborderons d'abord la diaspora juive antique par le biais de sources non juives, c'est-à-dire l'ethnographie grecque et romaine. Nous reviendrons ensuite à Philon d'Alexandrie et nous interrogerons sa philosophie de la diaspora à la lumière de sa compréhension cosmopolite du monde. L'importance de la diaspora, qui est d'ailleurs présente pour le judaïsme dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, et non pas seulement depuis la chute du Second Temple, ne doit pas être sous-estimée. Elle a marqué l'histoire du judaïsme depuis ses débuts, ainsi que la perception extérieure du judaïsme. Le déterminisme géographique et les juifs. Dans l'ethnographie grecque et romaine, le déterminisme géographique était une approche très populaire et en même temps très sérieuse pour expliquer le caractère, en grec l'éthos, d'un peuple. Dans la littérature grecque-romaine, on trouve de nombreux arguments déterministes, et cela dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote rapporte à propos de Cyrus le Grand que, dans les pays mous, disait-il, Cyrus, naissent ordinairement des hommes mous. Et ce n'est pas le fait du même terroir de produire d'admirables fruits et des hommes vaillants à la guerre. Dans un ouvrage probablement hippocratique, intitulé « Ère aux lieux », datant du 5e ou du 4e siècle avant, l'auteur oppose le caractère doux des peuples asiatiques à la force européenne et l'explique par les conditions climatiques opposées de l'Asie et de l'Europe. De même, Strabon, ou sa source, à l'époque d'Auguste, met en relation la physis des Indiens avec la forte humidité de l'Inde. Pour ce qui est des êtres humains, ceux du Sud ont la peau semblable à celle des Éthiopiens, mais l'aspect général est les cheveux semblables à ceux du reste des hommes. En effet, ils n'ont pas les cheveux crépus à cause de l'humidité de l'air. Ceux du Nord, en revanche, ressemblent aux Égyptiens. De même, chez Diodore, le sol infertile des Ligures, le peuple au nord de l'Italie, correspond à leurs conditions physiques. Les Ligures, Diodore écrit, habitant cette contrée, exploitent un sol rocailleux et tout à fait pauvre. À force de travaux et de peines terribles, elles portent quelques maigres fruits. Grâce à cet exercice constant, les hommes sont d'une taille réduite et restent vigoureux. Hérodote explique les coutumes étranges des Égyptiens par leur étrange géographie. Les Égyptiens, qui vivent sous un climat singulier, au bord d'un fleuve offrant un caractère différent de celui des autres fleuves, ont adopté aussi presque en toute chose des mœurs et des coutumes à l'inverse des autres hommes. Et selon Polybe, l'austérité des Arcadiens s'explique par les conditions atmosphériques froides et lugubres de l'Arcadie. Il considérait aussi, il écrit, l'austérité des mœurs qui est leur l'eau par suite de la rudesse du milieu et par la tristesse quasi générale de la région environnante, caractère auquel notre nature a tous fini par s'assimiler. Cette approche d'un déterminisme géographique a été adoptée et adaptée par de nombreux auteurs grecs et romains. Indépendamment de tout contexte théorique, il fut communément admis que les coutumes et le caractère d'un peuple étaient liés à son environnement géographique. Les exemples sont innombrables. Au IIe siècle de notre ère, l'historien romain Quint Curce écrit encore, et vous voyez le passage, « Comme partout, sicut ubique, les conditions géographiques forment là-bas aussi le caractère des habitants. » Il parle de l'Inde. Il me semble que les Juifs étaient une exception à ce modèle dominant. Dès le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, de nombreux auteurs grecs et romains ont décrit les coutumes des Juifs et le pays de Judée, mais aucun d'entre eux n'a tenté d'expliquer les coutumes ou le caractère juif par la géographie. Le caractère des Juifs reste, apparemment, sans rapport avec son territoire. Des explications ethnographiques liées à l'espace sont absentes des nombreuses descriptions des Juifs, telles que celles écrites par Hécatée d'Abdère, Posidonius, Strabon, Cicéron, Troque Pompée, Juvenal et bien d'autres. La Judée ne semble pas expliquer les Juifs. On pourrait noter que le fait que les Juifs n'étaient pas autochtones, mais avaient immigré en Judée, d'après le récit dominant de l'ethnographie gréco-romaine, n'invitait pas à des explications déterministes. Mais l'immigration n'exclut pas la possibilité d'un argument environnemental. Par exemple, les sites dont le caractère et les coutumes ont souvent été expliqués par des facteurs environnementaux étaient, selon certaines sources au moins, également considérés comme des immigrants, par exemple chez Hérodote. L'astronome alexandrin Ptolémée, au IIe siècle après Jésus-Christ, pensant également que les caractéristiques nationales étaient conditionnées par la situation géographique, ou dans son cas plutôt astrologique, établit un lien entre le caractère, à son avis déplorable, des peuples du Proche-Orient et la situation astrologique de leur territoire. Or, Ptolémée ne mentionne pas explicitement les Juifs, mais parle plus généralement de vastes espaces géographiques allant de la Phénicie à l'ouest à la Chaldée babylonienne à l'est. Quant aux lieux situés au milieu de ce cadran, Ptolémée écrit, comme l'Idumée, la Syrie cave, la Judée, la Phénicie, la Chaldée, l'Orchinie et l'Arabie heureuse, ils sont situés dans le nord-ouest du cadran entier. Ils ont affinité avec le trigone nord-occidental, le bélier, le lion et le sagittaire, et Jupiter, Mars et Mercure y président. Ainsi, ces peuples sont, en comparaison avec les autres, plus exercés dans le commerce et l'échange des denrées. Ils sont très rusés, peureux, trompeurs, en l'âme servile, ils sont tout à fait inconstants, comme le porte la configuration de ces planètes qui produisent ces diversités d'humeur. Et entre ces contrées, la Syrie cave, la Judée et l'Idumée sont plutôt attribuées au bélier et à Mars, car les hommes y sont hardis, sans superstition et faiseurs d'entreprises. On voit à quel point le phénomène du déterminisme géographique est répandu, et l'on voit bien sûr aussi à quel point ce concept est problématique. Certaines de ces dérives s'apparentent à du racisme dont les origines remontent ainsi à bien avant le XIXe siècle. L'ethnographie grecque et romaine, quant à elle, n'a pas grand-chose à voir avec la discipline moderne. Marcel Mauss définit dans son manuel d'ethnographie les devoirs de l'ethnographie scientifique. L'ethnographe doit être précis et complet. L'ethnographe n'est pas censé croire, ne pas croire, Mauss écrit, mais savoir. L'ethnographe n'a pas le droit d'être surpris, ne pas s'étonner, ou de porter des jugements moraux sur un peuple, ne porter aucun jugement moral. Et enfin, l'ethnographe est obligé de vivre pendant un certain temps au sein de la communauté du peuple qu'il est censé décrire. Ce n'est qu'à cette condition, dit Mauss, qu'il est possible non seulement de décrire, mais aussi de comprendre le caractère et les coutumes d'un peuple et de surmonter le danger inhérent à toute description ethnographique, la tentation de la subjectivité, difficulté subjective. Les ethnographes de l'Antiquité aiment pourtant être subjectifs et porter des jugements. L'ethnographie antique semble bien loin des prétentions de Marcel Mauss. La plus longue présentation ethnographique du judaïsme et de la Judée, dans la littérature gréco-romaine, se trouve vers l'an 100 après Jésus-Christ, chez Tacite, le grand historien romain. Dans le cinquième livre de ses histoires, Tacite insère une digression ethnographique destinée à introduire le récit de la destruction de Jérusalem par Titus. La digression contient des chapitres sur les origines, les us et coutumes des Juifs, ainsi que sur la géographie et l'histoire de la Judée. Ce texte a fait l'objet d'une analyse détaillée dans ma thèse de doctorat Baloas, publiée en 2002. Qu'en est-il des intérêts pour un déterminisme géographique de Tacite? Tacite établit-il un lien entre la géographie judéenne et le corps et caractère des Juifs? Cette question apparaît légitime si l'on considère la description que Tacite fait des Brutons et des Germains. Dans la Rigola, à propos du physique des Brutons, Tacite prend au sérieux une explication déterministe possible, bien qu'il la rejette finalement. Est-ce la condition climatique, positio Kelly, qui a imprimé un certain physique au corps des Brutons, se demande-t-il? La tribu des Matiaques, les Matiaki, écrit Tacite dans la Germania, ressemble à celle des Batavi. Je le cite, ils tiennent du sol même et du climat de leur pays un courage plus ardent. Cependant, dans le cas de la description des caractéristiques et des mœurs des Juifs, Tacite n'établit pas de lien explicite entre la géographie judéenne et les coutumes juives. L'ethnographie antique n'applique pas la pensée d'un déterminisme géographique aux Juifs. Le déterminisme géographique n'est pas le seul motif manquant de l'ethnographie gréco-romaine concernant les Juifs. Il y en a d'autres. Il vaut la peine de s'attarder sur ces silences, ces vides ethnographiques. En général, à l'instar de Tacite, les auteurs grecs et romains qui commentent les Juifs et la Judée le font d'une manière très traditionnelle. Les thèmes ethnographiques typiques, tels que l'origine, le nom, les divinités ou la divinité, l'alimentation ou les sacrifices et la divination, sont tous abordés dans les descriptions ethnographiques des Juifs. Certes, le codex des motifs du discours ethnographique prévoit des exceptions, et certains thèmes sont parfois plus ou moins intéressants, mais les motifs manquants dans l'ethnographie gréco-romaine sur les Juifs sont frappants. Ils comprennent, à côté des théories climatiques déjà mentionnées, le physique, les vêtements, l'habitat et les coutumes de la guerre. Ce n'est pas parce que Tacite ne s'intéressait pas à ces choses qu'il les a éludées. En effet, il traite de l'habillement des Germains, écrit sur la couleur des cheveux des Brutons et sur les tactiques de combat des Germains. Cependant, lorsqu'il vient écrire sur les Juifs, il ne donne aucune information à ce sujet. Ce constat reste vrai, même si l'on élargit la perspective et que l'on considère l'ensemble des textes grecs et romains qui traitent des Juifs. Shai Cohen de la Harvard University s'est penché dans un article intitulé « Those who say they are Jews and are not », ceux qui disent qu'ils sont juifs et qui ne le sont pas, « How do you know a Jew in antiquity when you see one ?» Comment reconnaître un juif de l'Antiquité quand on en voit un ? Sur le fait que l'apparence des juifs n'est pas notée dans la littérature gréco-romaine. Et l'hypothèse de Cohen est que l'on ne reconnaissait pas les juifs à leur apparence physique. Je le cite, « Pas un seul auteur ancien ne dit que les juifs se distinguent par leur apparence, leurs vêtements, leur langage, leur nom » ou leurs occupations. Bien qu'il soit évident que les Juifs pouvaient être reconnus en raison de leur activité religieuse et de leur abstention, l'observation générale de Cohen semble exacte. À l'époque du national-socialisme, certains chercheurs ont désespérément cherché des témoignages antiques sur un physique juif. N'en trouvant pas dans la littérature, ils se sont rabattus sur des images de momies égyptiennes dans lesquelles ils ont vu des parallèles avec des images contemporaines de juifs. L'antisémitisme dans de tels travaux est évident. La diaspora juive transcendait la géographie. Jusqu'à présent, nous avons relevé que l'usage courant d'un déterminisme géographique ne s'appliquait pas aux juifs et que certains autres topoi importants manquaient dans l'ethnographie ancienne sur les Juifs. Ajoutons un troisième point, Juifs et barbares. Les Grecs, et dans une certaine mesure les Romains, utilisaient le terme barbaros, ou barbarus en latin, pour se distinguer de l'autre, du nom grec ou du nom romain. L'étymologie du mot n'est pas absolument clair, mais il est fort probable que barbaros, barbarus, soit un terme onomatopoïque désignant quelqu'un qui parle une langue étrangère et donc l'inintelligible. Cependant, le terme grec et latin n'était en aucun cas limité à l'usage de la langue, mais désignait les noms grecs ou les noms romains en général. Il était souvent utilisé comme un terme agressif, comme c'est le cas dans les langues modernes, mais son utilisation était aussi souvent relativement inoffensive. La liste de tous les peuples qualifiés de barbares dans la littérature grecque-romaine est longue. Il semble toutefois que les Juifs n'avaient jamais vraiment figuré sur cette liste. Tacite, par exemple, appelle barbares les peuples suivants, les Germains, les Bretons, les Espagnols, les Thraces, les Celtes, les Arméniens, les Parthes, les peuples de la région de Pontos, les Numides et les Pannoniens, mais pas les Juifs. Tacite ne semble pas non plus être une exception à cet égard. En fait, il n'existe aucune preuve directe qu'un auteur païen ait qualifié les Juifs de barbares. Cicéron qualifie une fois le judaïsme de barbara superstitio, d'une superstition barbare, mais ne désignait pas les Juifs en tant que peuple comme barbares. Je n'ai connaissance d'aucune référence romaine qui utilise ce terme les concernant. Diodore, écrivant en grec, parle des peuples vivant autour de la mer morte comme de barbaroi, mais ne désigne pas spécifiquement les Juifs. Bien que les descriptions anciennes des Juifs soient très similaires, je le répète, à celles d'autres peuples, les Juifs n'entraient donc apparemment pas dans le schéma dualiste grec-romain versus barbare. Pourquoi les auteurs classiques ne nous donnent-ils aucune information sur les topoi ethnographiques fondamentaux que sont l'apparence physique, l'habillement, les conditions de vie, les coutumes militaires et les occupations des Juifs? Pourquoi les Juifs ne s'incrutent-ils pas dans la dichotomie très répandue entre Grecs romains et les barbares? Et pourquoi enfin leurs coutumes et leurs caractères ne sont-ils pas mis en relation avec les conditions géographiques de la Judée, comme la tradition de déterminisme géographique l'a fait avec tant d'autres cas? Alors, la prudence est de mise face à ces questions. Nous avons affaire ici à un argumentum et silencio, qui n'est pas le point de départ préféré de nos autres chercheurs, mais un silence assez frappant. De plus, il faut garder à l'esprit que c'est parce que l'ethnographie antique se distingue nettement de son homologue moderne dans ses approches et ses paradigmes, nous avons renvoyé à Marcel Mauss, et parce qu'elle ne peut être interprétée comme un genre spécifique, mais qu'elle imprègne toute la littérature ancienne en raison de son absence de contraintes, pourrait-on dire, qu'il nous faut prêter encore plus d'attention aux non-dits concernant un peuple. Il me semble que ces exceptions sont liées au fait que les Juifs ne vivaient pas seulement en un lieu précis, à savoir en Judée, mais aussi dans de nombreux endroits en dehors de leur pays d'origine, c'est-à-dire dans la diaspora. Une personne ne peut se trouver à deux endroits différents en même temps, de même, comme le dit Jonathan Smith, et je le cite en français, simplement en fonction de son emplacement spécifique cartographié sur un système de coordonnées spatiales et temporelles, tout lieu est, par définition, individuel. L'homme et le lieu sont tous deux individuels. La dichotomie grec-romain contre barbare n'est possible que si elle se produit dans des lieux différents. Les Juifs de Rome, par exemple, se comportaient différemment des autres Romains, mais différemment dans le même espace romain. Il était donc difficile de les qualifier de barbares. La diaspora excède cette dichotomie. Les coutumes religieuses en Judée et dans les différents lieux de la diaspora étaient probablement plus ou moins les mêmes. Des coutumes telles que la circoncision, l'abstinence de manger du porc, l'observation du sabbat, etc., ont toutes été remarquées et décrites par les auteurs grecs et romains. Mais comment décrire des éléments qui étaient très probablement différents en Judée et dans la diaspora, et encore différents dans les différents lieux de la diaspora, tels que les vêtements et les conditions de vie? Et comment établir un lien entre la géographie de la Judée et le caractère des Juifs, alors que ces derniers ne vivaient pas dans un endroit spécifique, mais dans plusieurs? L'étude approfondie de John Barclay sur les Juifs de la diaspora méditerranéenne illustre bien la diversité des réponses apportées par les Juifs à leurs diverses conditions diasporiques en Égypte, en Cyrénaïque, en Syrie, en Asie et à Rome. Barclay affirme à juste titre, et je le cite, qu'il n'y avait pas de conditions typiques de la diaspora. Pour comprendre le milieu social, c'est toujours Barclay, des juifs de la diaspora, il faut prêter attention à chaque site et à chaque période, ainsi qu'aux circonstances particulières des individus et des communautés juives dans chaque environnement. L'ethnographie ancienne ne pouvait rendre compte de ce phénomène. L'ethnographie grecque et romaine sur les Juifs diffère donc à plusieurs égards importants de celle sur les autres peuples, car les Juifs n'étaient pas seulement une longinqua provincia, pour citer Tacite, une population vivant loin de Rome, mais ils constituaient aussi, et peut-être plus que d'autres peuples, une partie importante de la population de la ville, pour parler de Rome. Iudaeos peut signifier à la fois un juif de la diaspora et un juif de Judée. Cette double identité, le fait que les juifs puissent être à la fois des étrangers internes et externes, va au-delà du territoire. Les auteurs grecs et romains étaient parfaitement conscients que les juifs vivaient dispersés dans toute la Méditerranée. Strabon, pour ne citer qu'un exemple célèbre, déclare, d'après Joseph, ceux-ci, les Juifs, ont déjà envahi toutes les cités et l'on trouverait difficilement dans le monde un endroit où ce peuple n'ait été accueilli et ne prévale. Cicéron note que les Juifs de Rome étaient prêts à aider les Juifs d'Asie. Il me semble que le phénomène de diaspora du judaïsme, c'est-à-dire le fait que les Juifs étaient chez eux dans des endroits très différents, pouvait parfois provoquer des irritations à Rome, comme à Alexandrie. L'empereur Claude critique dans une lettre où il s'adresse aux Juifs et aux non-Juifs d'Alexandrie le fait que de nouveaux Juifs migrent de Syrie ou d'Égypte vers Alexandrie et parle même des Juifs comme, je le cite, « ceux qui cherchent à susciter une sorte de maladie publique capable d'affliger la terre habitée ». Nous ne pouvons pas aborder ici en détail le terme de l'antisémitisme antique, ce serait un sujet en soi. Cependant, le phénomène de la diaspora dans l'Antiquité, comme plus tard, dépassant les frontières géographiques, pouvait provoquer des réactions négatives. En même temps, il semble que la diaspora juive, en tant que phénomène unitaire, n'ait jamais été pleinement conceptualisée et ne soit jamais devenue une image ethnographique des Juifs. Dans les nombreuses digressions et commentaires sur les Juifs de l'historiographie grecque et romaine, la diaspora juive, en tant que telle, n'est généralement pas un sujet. Il faut qu'on revienne à Philon d'Alexandrie. Quatrième chapitre, Philon d'Alexandrie sur la diaspora juive. Comment la diaspora juive antique est-elle perçue côté juif? Y a-t-il des recoupements avec la perception païenne? Nous nous concentrons à nouveau sur le point de vue du philosophe juif helléniste Philon d'Alexandrie. Dans un passage de son traité sur Joseph biblique, de Iosepho, Philon, comme s'il nous avait écoutés jusqu'ici cet après-midi, parce qu'il l'a fait, commente certains points que nous avons abordés. Le déterminisme géographique, la notion du barbare, et puis l'illusion de l'universalisme, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans notre cours. Philon commence par l'image déjà familière du cosmopolitisme, symbolisée ici par le monde comme une grande ville, mégalopolis en grec, dans laquelle il n'y a qu'une seule loi, la loi de la nature, nomos physios en grec. Ce monde, Philon écrit, où nous sommes, constitue en effet une immense cité, mégalopolis. Il n'y a qu'un seul régime politique et une loi unique, car c'est la raison de la nature qui ordonne ce qu'on doit faire et interdit ce qu'il faut éviter. Mais, et il est évident que Philon déplore ça, mais nos cités, chacune dans son lieu, sont en nombre incalculable et vivent sous des régimes politiques variés et des lois nullement identiques. On y a inventé ou ajouté par la suite telle coutume et telle règle ici, telles autres ailleurs. La raison en est l'absence de relations et de communautés non seulement du côté des Grecs avec les barbares, mais encore du côté des barbares avec les Grecs, et jusqu'à l'intérieur de l'un et de l'autre groupe, entre éléments de même souche. Et puis, on allègue, comme il se voit, des raisons qui ne sont pas les bonnes. Les circonstances défavorables, la stérilité des récoltes, la pauvreté du sol, la situation au bord de la mer ou à l'intérieur des terres, sur une île ou sur le continent, et autres prétextes semblables, mais on mentait la vérité. Or, c'est à cause de leur ambition et de leur mauvaise foi mutuelle que les hommes ne se contentent plus des décrets de la nature et appellent loi ce qui leur apparaît avantageux pour la communauté dans les assemblées où ils se rallient à la même opinion. La réalité est différente de l'idéal universaliste. L'universalisme se heurte aux besoins locaux des personnes qui donnent lieu à des coutumes différentes. L'universalisme se heurte à la diversité des gens. Philon prend acte de cet état de fait en secouant la tête. Il préférait une mégalopole en soi. Dans notre première conférence, nous avons parlé de l'idéal philonien du cosmopolitisme. Adam et Moïse sont les premiers cosmopolites de la littérature mondiale. Ils vivent en harmonie avec la loi naturelle. Nous avons noté que c'est chez Philon que l'on trouve les premières preuves de la notion grecque de cosmopolite. Mais nous avons également vu que cet idéal s'effondre régulièrement chez Philon. Il revendique pour le judaïsme ce qu'il critique, aussi dans le De Iosepho ici, en fronçant les sourcils chez les autres. Le judaïsme a lui aussi sa propre politéia, son propre régime politique. Ce qui est intéressant dans le passage que nous avons cité de De Iosepho, c'est le rejet par Philon des explications qui exploitent le déterminisme géographique. On ne doit pas expliquer les différences entre les hommes par des circonstances géographiques. Philon nous dit, ce qui explique les différences des mœurs en différents endroits par les conditions géographiques, la pauvreté du sol, la situation au bord de la mer ou à l'intérieur des terres, se trompe. Il s'agit là d'une critique du déterminisme géographique très très rare dans la littérature antique. Notons aussi que Philon utilise ici et ailleurs la dichotomie entre grec et barbare. D'autres auteurs juifs hellénistiques, comme Flavius Joseph, se sont aussi servis du même contraste entre grec et barbare qui apparaît régulièrement dans la littérature grecque. Les juifs ont également utilisé l'expression « barbaroi » en référence aux autres. Le deuxième livre des Maccabées, écrit en grec, fait la distinction entre les Juifs et les barbares. Les Maccabées n'étaient pas seulement des Juifs, mais aussi des Hellènes. Philon, si l'on lui demandait, fait d'ailleurs partie des Grecs, dans la dichotomie entre Grecs et barbares. Mais en ce qui concerne les sources externes, les Juifs sont, semble-t-il, comme on l'a vu, uniquement des Juifs, Judaïo, Judei, et non des barbares. Nous avons appris à connaître Philon comme un philosophe contradictoire, complexe, provocant. En d'autres termes, intéressant. Ça se voit aussi dans sa localisation entre Alexandrie et Jérusalem, entre la diaspora et la Judée. D'où est Philon d'Alexandrie? La recherche philonienne imagine souvent le philosophe comme une figure géographiquement plutôt statique. Dans une certaine mesure, cela peut être dû au nom même que les chercheurs lui ont donné. Il s'agit de Philon d'Alexandrie, le Philon qui vit et écrit à Alexandrie. L'épithète géographique est bien sûr due au fait qu'il y avait de nombreux philoniens, je pense plus que 60 philons, dans l'Antiquité ou dans le monde gréco-romain. On peut penser au philosophe platonicien Philon de Larissa ou à l'antiquaire et grammairien Philon de Byblos. Le nom de Philon, Philon d'Alexandrie, le place tout d'abord dans la ville d'Alexandrie et pour de bonnes raisons. Philon parle de la ville comme de notre Alexandrie, Katathen Hemeteran Alexandrian, et il ne fait aucun doute que la ville était importante pour lui, avec toutes les ambivalences qui, pour lui, en tant que philosophe, allaient de pair avec l'urbanité. Les informations sûres sur la vie de Philon sont rares. En ce qui concerne les voyages de Philon, nous savons seulement avec certitude qu'il a quitté sa ville natale d'Alexandrie à deux reprises. Il s'est rendu à Jérusalem pour prier et offrir des sacrifices, et on va revenir à ce passage, et il a participé à l'ambassade juive, probablement en tant que chef, auprès de l'empereur romain Caligula à la suite de l'émeute anti-juive à Alexandrie en 38 après Jésus-Christ. L'importance de Rome pour Philon, d'une part, et ses relations avec la terre d'Israël d'autre part, comptent parmi les questions de recherche les plus débattues dans les études philoniennes, en particulier ces dernières années. En ce qui concerne Rome, Maren Niehoff, dans sa biographie intellectuelle de Philon, qui est à paraître en français cette année, a suggéré que le voyage de Philon à Rome était plus qu'une simple visite, mais constituait en fait un changement de cap intellectuel dans sa vie. Niehoff suggère que Philon est resté beaucoup plus longtemps à Rome qu'on ne le pense généralement et qu'il y a écrit une très grande partie de son œuvre. En ce qui concerne la terre d'Israël et en particulier Jérusalem, l'importance de la prétendue seule visite de Philon au temple est intrinsèquement liée aux débats fondamentaux de l'érudition philonienne, à savoir quelle est la relation de Philon avec le mouvement rabbinique naissant en terre d'Israël, comment Philon communiquait-il en Judée? Et je vais revenir à cette question. Il me semble que les dichotomies entre Philon d'Alexandrie et Philon de Rome, ou Philon d'Alexandrie et Philon de Jérusalem, souffrent d'une compréhension simpliste de la situation géographique de Philon. Philon vivait à Alexandrie, à côté de Rome, le centre du monde hellénistique de l'époque, et dans un triangle d'échanges qui incluait Rome et Jérusalem. Philon, que nous connaissons sous le nom de Philon d'Alexandrie, était un citoyen de l'ancienne Méditerranée. Voyager était un élément essentiel de sa compréhension de la raison d'être de l'homme et d'Israël en particulier. Parmi les dizaines d'étymologies hébraïques que l'on trouve dans l'œuvre de Philon, il en est une qui revêt une importance particulière pour notre sujet. Dans De Migratione Abrahami, chapitre 20, lors de l'abandon Tur Kastim par Abraham et de celui du vertueux Joseph, qui se définit comme un hébreu, Genèse 40-15, Philon interprète l'étymologie du nom hébreu comme un voyageur, comme quelqu'un qui traverse. Vous voyez le passage dans le De Migratione Abrahami 20. Il s'agit de Joseph, a été fier de son appartenance à la race des Hébreux, qui toujours voyage du sensible vers l'intelligible. Hébreu, le mot hébreu, se traduit par voyageur. Perates en grec, karohebraios hermenoietai. En utilisant le verbe hébreu avar, avar c'est traverser, c'est passer, Philon interprète les Hébreux comme ceux qui atteignent un niveau de compréhension plus élevé. Mais à certains moments et à plusieurs reprises, Philon va au-delà des métaphores. Plus loin dans le même traité sur la migration d'Abraham, lors de l'abandon de Charan par Abraham et de son voyage à travers le pays de Sichem, Philon écrit ce qui suit. Il, c'est-à-dire l'esprit, est fait pour dévorer une somme prodigieuse d'impressions par les yeux et par les oreilles. Ce qui se passe dans son pays ne lui suffit pas. Il est attiré par ce qui se passe à l'étranger, à l'autre bout du monde. Philon souligne l'énorme soif d'apprendre de l'homme qui ne s'arrête pas aux frontières, aux intempéries, il aussi dit. Philon exhorte l'homme à parcourir le monde et à considérer toutes ses parties. Cela se rapproche de l'idéal de Philon de citoyen cosmopolite. Pour acquérir la sagesse, la sophia, il faut traverser toutes les mers. Vers la fin du traité de De Migratione Abrahami, Philon revient au voyageur, au perates, maintenant avec le verbe voyager en grec peraiustai. Si le substantif est rare dans la littérature grecque, le verbe perao, traverser, est quant à lui assez courant. En fait, l'expression traverser la mer est déjà homérique. Lorsque Nausicaa présente à Ulysse les habitudes des Phéaciens, elle est décrite comme un peuple qui se réjouit de traverser la mer. Et ailleurs dans l'Odyssée, c'est Ulysse lui-même qui franchit le grand gouffre des mers. Ici, c'est Ulysse qui est l'hébreu dans le sens philonien du mot. Déjà la Septante traduit hébreu par perates, quelqu'un qui traverse, à propos d'Abraham, mais c'est Philon qui donne à cette appellation un sens plus profond. Tous les Hébreux traversent. Tous les Hébreux sont des voyageurs. Et tout le monde devrait voyager. Il le dit dans le traité d'Abraham au paragraphe 65. Ceux qui n'ont jamais voyagé sont par rapport à ceux qui ont fait des voyages, comme les aveugles à ceux qui voient clair. Philon fait référence à l'un de ses thèmes philosophiques favoris, la vision. Ceux qui n'ont jamais voyagé, anapodemetoi, est un apax. Philon a peut-être inventé le mot, il se trouve uniquement chez Philon ici. Ces gens sont comme des aveugles, ou inversement, ceux qui voient sont des voyageurs. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, Israël est étymologisé par Philon comme ceux qui voient Dieu. Ish, re'eh, el. Tout cela correspond à l'interprétation que Philon fait des Hébreux. Hébreux et Israël signifient voyager pour voir. Cependant, voyager implique aussi le retour. Personne ne le saurait mieux qu'Ulysse. Et Philon le sait aussi. Toujours dans le chapitre 65 de son traité de Abrahamo, il écrit « Cependant, nos voyageurs sont pressés de voir et de saluer leur sol natal, d'embrasser leurs familiers, de jouir de la vue, opsios, très agréable et très souhaitée de leurs parents et amis. Et souvent, voyant les entreprises pour lesquelles ils se sont expatriés traîner en longueur, ils les abandonnent, attirés par le très violent désir de ce qui les touche vraiment. Avec toutes ces raisons de voyager à l'étranger, il reste néanmoins un désir humain, selon Philon, de rentrer chez soi pour retrouver ses proches. Le cosmopolitisme reste une utopie. Philon brosse plutôt un tableau de nostos, du retour, et la nostalgie qui rappelle l'Odyssée d'Homère. Le voyage doit se terminer à la maison. Une fois de plus, il s'agit d'une question de vision. Philon a d'abord fait référence au besoin humain de visiter et de voir des sites étrangers, mais il y ajoute un besoin qui lui succède et qui est celui de revoir sa maison. Comme je l'ai déjà dit, Philon ne mentionne qu'une seule fois dans son œuvre avoir visité Jérusalem et le Temple. Il s'agit plutôt d'une remarque secondaire dans le contexte d'un commentaire sur un grand groupe de colombes qu'il a vu un jour à Ascalon, alors qu'il se rendait à Jérusalem pour prier et sacrifier. Il écrit « Il est sur la côte syrienne, une cité nommée Ascalon. Je m'y trouvais à l'époque où je faisais route vers le temple ancestral pour y prier et y sacrifier. » Et j'ai observé une incroyable multitude de colombes au carrefour ainsi que dans chaque maison. L'importance physique de Jérusalem et plus généralement de la Judée pour Philon continue de faire l'objet des débats. On pourrait faire valoir que justement la nonchalance avec laquelle Philon mentionne sa visite à Jérusalem ici indique qu'il s'y rendait assez régulièrement et non pas une seule fois. Nous n'avons pas d'indice clair, mais je suis convaincu que Philon, le voyageur, connaissait bien Jérusalem, en plus d'Alexandrie et de Rome. Les Hébreux sont donc pour lui les voyageurs, et pas seulement au sens allégorique. Philon plaide pour la mobilité, mais une mobilité qui inclut le retour. Nous verrons tout à l'heure comment cela se répercute sur sa compréhension d'Alexandrie et de Jérusalem. Mais nous devons ici revenir avec la brièveté qui s'impose à une question que nous avons déjà abordée lors de ma première conférence qu'on a parlé de Harry Wolfson. Qu'en est-il des connaissances de Philon en hébreu? Cette question est étroitement liée à celle sur laquelle se sont affrontés Harry Wolfson et Irving Goodenough. Philon a-t-il eu des échanges avec cette culture de Judée qui, plus tard seulement, on se souvient des réserves mythologiques de Goodenough, est devenu rabbinique. La question de savoir si Philon connaissait ou non l'hébreu a été traitée de manière répétée et approfondie dans les études sur Philon, la majorité d'entre elles s'opposant à un philo-hébraïcus. La connaissance de l'hébreu par Philon a été sérieusement contestée dès la Renaissance, y compris par l'érudit juif Azaria de Rossi, qui d'ailleurs, au XVIe siècle, a réintroduit Philon auprès d'un lectorat juif. Il n'est pas nécessaire de passer en revue tous les travaux antérieurs sur la question de la connaissance de l'hébreu par Philon, cela ne serait d'ailleurs pas possible. L'un des arguments de Harry Wolfson en faveur de la connaissance de l'hébreu par Philon semble particulièrement évident. À maintes reprises, plus de 160 fois dans son œuvre, Philon utilise une étymologie hébraïque des noms bibliques pour son exégèse. Nous avons mentionné juste avant ces étymologies hébraïques pour Israël et hébreu. D'un point de vue philologique, la plupart de ces étymologies, comme on l'a déjà dit, sont trompeuses. Toutefois, comme la plupart des érudits en conviennent aujourd'hui, cela n'indique pas un manque de connaissance de l'hébreu. Il suffit de penser aux nombres étymologiques imaginatifs de la Bible hébraïque et du Midrash rabbinique. Ce qui compte pour Philon, c'est que ces étymologies aient un sens dans le contexte de son interprétation, souvent allégorique. Les érudits ont bien sûr toujours été conscients de ces étymologies. Ce qui a néanmoins amené un grand nombre de chercheurs à conclure que Philon ne connaissait pas du tout l'hébreu, ou si c'était le cas, alors seulement de manière très très limitée, c'est que Philon semble ignorer le texte hébreu de la Bible. Si Philon utilise la Septante au lieu du texte masorétique, les étymologies hébraïques ne peuvent pas être les siennes. Philon a plutôt dû utiliser une liste préexistante d'étymologies hébraïques, une sorte d'onomasticon. Cependant, bien que nous connaissions l'existence de tel onomastica, ces parallèles datent de l'Antiquité tardive. Nous ne possédons aucune liste d'étymologies hébraïques semblable à celle que Philon aurait utilisée, datant de la période hellénistique ou romaine. En même temps, il ne faut pas exclure la possibilité que des auteurs antérieurs écrivant en grec aient utilisé des étymologies hébraïques pour expliquer la signification profonde de personnages bibliques et que Philon en ait incorporé certains. Parfois, il n'est en effet pas clair si Philon utilise une étymologie toute faite qui n'a eu qu'à embellir, pour ainsi dire, ou s'il a lui-même trouvé l'explication étymologique. Il est très peu probable que Philon n'ait eu aucune connaissance de l'hébreu et qu'il ait copié aveuglément des étymologies hébraïques à partir d'un modèle. La question ne se limite toutefois pas à Philon. Les Juifs d'Alexandrie, à l'époque de Philon, comprenaient-ils l'hébreu? Permettez-moi de souligner un bref commentaire de Philon sur la traduction de la Septante qui a souvent été négligée ou traduite de façon erronée. Dans sa description de la manière dont la Torah a été traduite en grec, Philon souligne la précision mathématique de la traduction. De même, en effet, à mon sens, il écrit, qu'en géométrie et en dialectique, les choses à signifier ne supportent pas la bigarrure dans l'expression qui reste inchangée une fois établie. De même aussi, semble-t-il, ces traducteurs découvrirent les expressions adaptées aux réalités à exprimer. Les seuls ou les plus capables de rendre avec une parfaite clarté les choses signifiées. Et en voici la preuve la plus éclatante. Quand les Chaldéens sont les Hébreux, qui ont appris le grec, ou des Grecs qui ont appris le Chaldéen, donc l'Hébreu, se trouvent devant les deux versions simultanément, la Chaldéenne, donc la version hébraïque, et sa traduction, dans la Septante, la traduction grecque, ils les regardent avec admiration et respect comme deux sœurs, ou mieux, comme une seule et même œuvre, tant pour le fond que pour la forme. Que dit Philon ici? Que dit exactement Philon ici? Selon Philon, ce qui peut être considéré comme une preuve, en grec pistis, de la qualité de la traduction, c'est l'admiration avec laquelle ceux qui connaissent à la fois le grec et l'hébreu la considèrent. Philon se réfère clairement aux lecteurs de son époque. Et lorsqu'il mentionne les Chaldéens, c'est-à-dire les locuteurs de l'hébreu, qui apprennent le grec, et les locuteurs du grec qui apprennent l'hébreu, Philon ne se réfère pas à un événement hypothétique, comme la phrase est souvent traduite. Il n'utilise ni le mot potentiel, ni le mot irréel en grec. S'il apprenait le grec, Philon décrit plutôt un état de fait habituel. S'il est vrai que le rapport de Philon sur ce grand projet de traduction est rédigé dans un langage plutôt mythique, il dit ici quelque chose sur les lecteurs de son époque. Philon, qui écrivait à Alexandrie dans la première moitié du 1er siècle après Jésus, écrit, comme nous le savons, affirme clairement que certaines personnes apprenez l'hébreu comme d'autres apprenaient le grec. Certes, il n'y a aucune raison de supposer que le bilinguisme hébreu-grec était très répandu à Alexandrie à l'époque de Philon. Le fait même que, selon Philon, il faille apprendre l'autre langue, l'hébreu ou le grec respectivement, pour pouvoir emparer les deux Bibles, indique que la connaissance bilingue de l'hébreu et du grec n'était pas évidente. Mais il semble évident qu'à l'époque de Philon, au premier siècle après, à Alexandrie, certaines personnes ont appris et connu les deux langues. Philon désigne le grec comme notre langue, hemetera dialectos, comme il peut désigner l'hébreu comme la langue ancestrale, patrios glota. L'hébreu n'était guère un territoire inconnu pour Philon. Donc, je suis d'accord avec Wolfson sur ce point. Il s'oriente vers les deux langues, Philon, comme il s'oriente vers les deux lieux, Alexandrie et Jérusalem. Métropole et patrie. La Judée et la langue hébraïque qui est liée fait partie intégrante de la conception de la diaspora de Philon, malgré son fort ancrage alexandrien. Le cosmopolitisme de Philon se heurte lui aussi à des limites, son idéal d'universalisme s'effondre. Pas en faveur d'un seul lieu, mais de deux, Alexandrie et Jérusalem. En ce sens, Philon n'est pas seulement le premier philosophe juif de l'histoire, mais aussi le premier juif de la diaspora que nous pouvons bien saisir. Comme on l'a vu, pour Philon, les Hébreux sont des voyageurs. Mais ce sont des voyageurs qui, comme Ulysse, ont leurs ancres et rentrent à la maison. Dans un passage célèbre, Philon fait de la distinction entre la ville-mère par laquelle il entend Jérusalem, Métropolis, et la ville-patrie, patris en grec, habitée depuis les temps anciens. Il écrit « Car les Juifs, à cause de leur grand nombre, un seul continent ne saurait les contenir. C'est pour cette raison qu'ils émigrent vers la plupart des régions les plus favorisées d'Europe et d'Asie. » C'est assez similaire à ce que Strabon dit chez Flavius Josèphe. « Sur les continents et dans les îles. Ils considèrent comme leur métropole la ville sainte où se trouve le temple sacré du Dieu très haut, mais ils tiennent pour leur patrie respective les régions que le sort a données pour séjour à leur père, à leur grand-père, à leur arrière-grand-père et à leurs ancêtres plus lointains encore, où ils sont nés, ont été élevés. Dans certaines, ils sont arrivés en colonie officielle dès la fondation pour complaire aux fondateurs. La ville mère et la patrie sont pour l'essentiel mises sur un pied d'égalité par Philon. Ce qui est remarquable en tout cas, c'est la présence soulignée par Philon dans un lieu de la diaspora pendant de nombreuses générations. Dans le cas de Philon, sa patrie est clairement Alexandrie. La diaspora marque à la fois l'image extérieure des Juifs et l'image intérieure des Juifs. Le fait que les Juifs aient vécu dès l'Antiquité dans les endroits les plus divers du monde méditerranéen a donné une image ethnographique particulière des Juifs. Et le double rattachement, alignement, j'évite le mot loyauté, ce n'est pas la question, à la ville mère et à la ville patrie ont donné une image de soi à la fois locale et translocale. Les hybridations que nous avons rencontrées lors de ce cours cite encore une fois des mots clés comme cosmopolitisme et loi naturelle, mythologie, mythologie juive, mythologie grecque, et culte à mystère, juif et grec, révèlent les complexités de la diaspora. Si mon domaine se restreint à l'antiquité juive, on voit bien que ce développement éclaire d'une complexité parallèle des époques ultérieures. Je vous remercie chaleureusement de votre intérêt et je vous souhaite une excellente soirée.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.